Alors, je voulais faire une introduction un peu sur la théologie, parce qu'en fait, c'est ma vie, on a fait de théologie. Je me suis dit, pourquoi la théologie et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de la théologie quand on est chrétien? Parce que c'est vrai que la théologie, on peut avoir l'impression que c'est un peu réservé à quelques érudits et gens très très loin. La théologie est souvent dogmatique. Mais elle peut être aussi apologétique, c'est-à-dire qu'elle peut servir aussi dans l'évangélisation. Et pour avoir pratiqué l'évangélisation depuis un moment, je me sers de beaucoup de choses de théologie finalement, parce que donc c'est une des phrases que je vous ai mis là, pour vraiment, c'est ce que dit le père Giton, il s'agit de former l'intelligence et le cœur du témoin du Christ, de lui donner le sens des vérités surnaturelles, de l'éveiller à la suprême sagesse du mystère de Dieu. Et je vous invite, je l'appuie pour... voilà, il y a un article sur le père Giton justement, dans ce super numéro, qui est sur justement la théologie et pourquoi faire de la théologie. Voilà, première question, et c'est de l'utilité même de la théologie. Voilà, et donc c'est assez intéressant. Je suis bien inspirée pour dire voilà, il faut se nourrir aussi pour pouvoir. Ouais, ça se médite dans la prière et des choses comme ça, donc c'est pas juste intellectuel, mais en tout cas on a besoin de mieux comprendre qui est le Christ. Quand on lit la phrase de Saint Jean, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, alors la connaître c'est pas seulement savoir que tu existes, c'est te connaître avec, dans la Bible il y a toujours avec le terme connaître une part d'intimité. Donc ce qu'on va faire là dans les cours de théologie, alors je ne suis absolument pas théologienne, j'essaye d'apprendre et là je suis, donc j'ai un préparation avec le père Giton sur le sujet, donc j'essaie de faire ça bien. Par contre, je suis ravie de faire ce cours-là, parce que moi le thème est magnifique, c'est-à-dire parler de Dieu, et notamment de la Trinité, ça m'a toujours à la fois fascinée et enthousiasmée. Donc voilà, donc c'est à la fois Dieu, donc on dit, oh là là, c'est tout, tout d'un coup, et en même temps, Dieu c'est d'abord, en fait, il y a une forme de simplicité en Dieu. Donc j'espère que je vous ferai passer mon enthousiasme pour... la Trinité. Alors le plan qu'on va suivre là sur les 8 sessions, c'est en octobre. Aujourd'hui, on prend un petit peu un contour, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de notre Dieu, des chrétiens, on va parler un petit peu de comment est-ce que l'homme appréhende Dieu et comment est-ce qu'il peut rencontrer Dieu et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est un peu une forme de contexte. Ensuite, on parlera plutôt d'expérience de Dieu dans la Bible et notamment sur l'Ancien Testament. Un peu le Dieu Père et le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu par un Dieu unique. Ensuite, on fera en décembre Jésus et son Père, Jésus et l'Esprit Saint. Puis après, on ouvre un peu plus sur Dieu unique et ensuite sur la Trinité. Et ensuite, en avril, on aura la connaissance de Dieu dans la prière. Et puis en dernier, un peu le défi de l'athéisme. Après, on fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut, comment ça peut nous solidifier, nous renforcer par rapport à un certain athéisme. Souvent une indifférence d'ailleurs. Alors j'ai remis quelques définitions. Ce que je vais essayer à chaque fois, c'est de faire un cours pas trop long pour qu'on ait le temps d'échanger, d'avoir une partie question-réponse, que ce soit sur le cours du jour ou le cours de la fois d'avant d'ailleurs. Et puis j'essaierai de vous donner aussi un peu, donc là il n'y a pas grand-chose, il y a juste trois définitions, parce que le thème ne s'y prête pas tellement. Mais après sur d'autres points de vue, d'avoir un petit peu plus aussi des matériaux sur des choses que vous pourrez lire après, qu'on ne va pas forcément détailler dans le cours, mais c'est aussi pour vous nourrir et vous faire connaître des choses. Ça vous va?
Très bien.
On est parti?
On y va.
Alors on est parti. Donc, l'homme est sacré des grottes de Lascaux, Mont Sinaï. Père Giton m'a beaucoup perturbée quand il a fait cette première idée de cours. Je me dis, oh là là, mais il faut rentrer dans le sujet, pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot et tout ça. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment on est à la fois éminemment religieux et comment ça crée un prisme sur la manière dont on regarde Dieu. Donc finalement, je pense ce cours est assez utile. J'essaie de bien suivre. Et notamment parce qu'il montre aussi des impasses dans lesquelles on pourrait être. Donc voilà. Donc on va se concentrer sur un peu comment l'homme perçoit le divin, quel est son rapport au divin. C'est très important après pour quand on parlera du Dieu Trinité. Et puis il y a un peu les typologies des religions et quelles sont ces impasses qui sont avec ce genre de religions qui partent finalement de l'homme et qui ne reçoivent pas tout de Dieu. Alors l'homme est naturellement religieux, donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle on a l'impression que c'est quand même dans le passé, mais qu'à l'heure actuelle personne n'est religieux. En fait on a vraiment globalement dans l'histoire d'abord une universalité du fait religieux. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que c'est, on se désintéresse de Dieu, etc. Mais quand même, d'abord, il y a toujours une forme de spiritualité, de recherche. On voit avec les tendances à aller vers le bouddhisme, les sectes, tous les trucs de yoga et choses comme ça, qui sont aussi des formes de, finalement, de recherche de quelque chose qui dépasse. Donc il y a toujours un sorte de sentiment religieux, même s'il a un peu changé. Il y a aussi le caractère actuel qui est de se dire qu'il faut s'affranchir de toute forme de religiosité, puisqu'en fait, ça entrave notre liberté et que voilà, c'est plus un. Donc là, on a été bien marqué par la religion, le culte des peuples. Je pense que ça nous a bien plombé sur le sujet. Voilà, alors qu'en fait, ce qu'on aperçoit, c'est que dans tous les mondes, dans toutes les époques et sur toute la surface de la Terre, il y a vraiment un caractère profondément religieux de l'expérience humaine. Pas forcément du foi, mais même dans les comportements humains. Donc il y a des existences de pratiques rituelles. Alors on l'a surtout vu, c'est vrai que dans l'histoire, en anthropologie, quand on fait des fouilles, c'est surtout avec toute la partie qu'est-ce qu'on fait avec les morts, le culte des morts, comment on honore les morts. Mais les pratiques, elles sont rituelles, elles sont de tous ordres. On voit chez les Mayas, les Égyptiens, il y a des tonnes de pratiques religieuses. Donc en fait, elles sont ces pratiques, elles témoignent que l'homme est en quête de quelque chose qu'il dépasse, une certaine forme de transcendance, et qui veut sortir finalement du monde ordinaire pour chercher Dieu. Alors souvent, c'est pas Dieu, c'est le divin, quelque chose de tout autre. Et souvent, c'est même sans s'en apercevoir. Donc c'est même à la limite, quelque chose qu'on cherche de création. Et puis, il y a aussi dans cette recherche du sacré quelque chose autour de pourquoi on est là, donc du sens de l'origine et du sens de vers quoi on va. Voilà, donc l'homme recherche le sacré. Et puis, il a un sens inné du sacré. Très intéressant de voir avec les enfants. Voilà. On met deux, trois bougies, on fait une prière, il y a tout de suite quelque chose, c'est une sorte d'évidence, voilà, qu'on est en train de faire du sacré. Donc, on a vraiment un sens inné de ça. Alors, je vous ai mis quelques références de Émile. Alors, ce n'est pas du tout des gens chrétiens. Donc, Émile Durkheim, qui est un sociologue, donc, qui a analysé beaucoup la religion, mais alors d'un point de vue très, très extérieur, et qui dit que la religion n'est pas seulement un système d'idées, elle est avant tout un système de force. Donc, ça, c'est aussi l'idée de, quand je vous parlais de l'origine et de pourquoi il y a le monde, il y a cette idée de force qui meut les choses, qui explique la dynamique. C'est aussi un système de croyances solidaires et de pratiques relatives aux choses sacrées qui unissent en une même communauté ceux qui y adhèrent. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est à la fois quelque chose d'un peu culturel, hein, qui pourrait dire c'est juste qu'il trace une communauté, mais en fait il dit pour lui c'est pas irréductible à une autre expérience, donc on ne peut pas réduire ça juste à un phénomène culturel. Il y a quelque chose qui est plus profond dans l'homme sur cette dimension sacrée. Freud fait une analyse sur les désirs, pourquoi est-ce qu'on a créé des religions, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une religion. Un besoin affectif de protection, donc là on voit beaucoup tout ce qui est la divinité comme une forme de père, donc il y a tout le rôle de la protection. Un besoin intellectuel de compréhension du monde et de soi-même, donc ça c'est une réponse aux grandes questions métaphysiques, d'où on vient, où on va, pourquoi on est là. Et enfin un besoin moral de justice, avec cette idée de rétribution des justes et des méchants, de bien et de mal, de paradis et d'enfer. Donc finalement, il reconnaît que c'est vraiment un désir fondamental, Freud qui n'est pas un plus grand des chrétiens. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est moteur dans l'homme à ce sujet. Ensuite, il y a Jung, qui est un psychiatre et psychothérapeute. Lui, il pense que la psyché, donc on va dire l'être, enfin l'intelligence ou l'âme, il n'emploie pas ce terme-là, est dans son essence naturellement religieuse. Donc lui, il n'est pas du tout sur la partie sexualité qui devrait driver l'homme, mais plutôt sur quelque chose qui est vraiment de nature religieuse avec un dépassement. Donc ça, c'est un peu le contexte avec la philosophie assez récente, etc. Et puis le contexte avec vraiment toute l'histoire qui nous montre le nombre de pratiques religieuses, de rites qu'il y a eu. Alors si on regarde justement ces rites, qui sont marqueurs dans toutes les expériences humaines, qui sont spécifiques d'ailleurs à l'humain, pas du tout aux animaux par exemple, donc il y a quelque chose autour de devenir contemporain des dieux, de vivre comme eux et avec eux. Donc ça c'est une quête sur finalement notre nostalgie d'être dans toute notre plénitude Et donc, comme si on avait l'intuition qu'effectivement, notre nature humaine, elle a été blessée par le péché, c'est ce que nous on explique. Voilà, et comme s'il y avait cette... voilà, on n'est plus exactement comme on devrait être. Et donc, il y a cette recherche de redevenir, de se ressourcer auprès de l'être, au sens strict du terme. Et donc, l'homme veut vivre, finalement, avec Dieu, comme un Dieu. Voilà, toutes ces notions-là. Et donc, on a, dans le sacrifice, la pratique qui est commune à toutes les religions. Alors, le sacrifice n'est pas forcément sanglant, mais quand même, ça a été une grande pratique. Enfin, beaucoup de sacrifices sont plutôt sanglants. En fait, le sujet n'est pas de sacrifier, c'est pas comme de sacrifier des hommes ou sacrifier des choses qu'on aurait au service du Dieu pour montrer qu'il est plus important que nous. C'est pas du tout ça l'idée du sacrifice. Le sacrifice, c'est vraiment de faire quelque chose de sacré et finalement, c'est quelque part de partager le repas des dieux. Donc, c'est vraiment cette idée de se mettre dans le monde divin et de créer un passage. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'il y a des sacrifices, les prêtres prennent une partie, donc il y en a une partie pour le dieu et une autre partie qui est pour les prêtres et pour partager avec les personnes qui offrent le sacrifice. Donc il y a l'intuition que par cela, en fait, on rend à Dieu, on rentre dans le terrain des dieux, de la divinité, et que du coup, c'est pas l'homme qui fabrique du sacré avec son l'holocauste et le sacrifice, mais c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est Dieu qui fait l'acte. En fait, lui, il apporte quelque part l'offrande, il est là, mais finalement, le sacrifice, il est fait par la divinité. Donc, il y a vraiment dans les sacrifices cette notion de s'en remettre à Dieu, et finalement, c'est lui qui a la part, qui agit dans le sacrifice. Et si, globalement, c'est souvent par l'immolation de la viande carnée, c'est parce que la viande, c'était souvent le repas de fête. Et comme on est un repas avec les dieux, bah forcément c'est un repas festif, et donc souvent à base de viande. D'où l'idée aussi des animaux plus importants, etc., ce qui fait que le sacrifice a plus de valeur, entre guillemets, c'est aussi lié à ça. Alors un autre rite qui est assez fréquent, c'est l'oracle. Donc là, il y a l'idée aussi donc là on rejoint plutôt la dimension un peu métaphysique, comprendre quel va être l'avenir, comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Décoder, et donc le rôle des oracles c'est souvent ça, et puis aussi parfois de pouvoir, c'est une dimension un peu d'intercession, c'est-à-dire de faire permettre que des proches puissent avoir quelque chose de Dieu. Voilà, donc dans tous les. Donc j'insiste un peu sur les rites qui sont vraiment l'idée que c'est pas l'homme qui fait le rite, c'est vraiment. L'homme qui se met à disposition et c'est le divin qui vient faire le rite. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on retrouvera dans le judaïsme, dans les sacrifices du temple, c'est vraiment ça. C'est Dieu ou Abraham qui dispose la viande et puis c'est Dieu qui vient mettre le feu entre les bêtes pour sceller l'alliance. Ou qui fournit à la place de son fils l'offrande. Donc là, on est même jusqu'à l'offrande. Alors ensuite, il y a le mythe. Vous avez le droit de m'arrêter quand vous voulez. Hein. Les questions, elles ne sont pas forcément qu'à la fin. Donc c'est un peu comme vous le sentez. Non, parce que comme il y a beaucoup de concepts aussi, je m'aperçois que ça fait un peu conceptuel mon truc. Donc le mythe, ce qu'on veut, c'est expliquer. C'est-à-dire, autant le rite, c'est un acte pour se mettre en proximité avec le divin, autant le mythe, il y a une forme d'explication. Donc c'est mettre du pourquoi, du comment, du qu'est-ce que ça veut dire, pour expliquer ce qui est en train de se passer et comment on est. Donc le mythe il explique soit l'origine, donc c'est tous les mythes cosmiques, voilà, mais il y a aussi des mythes sociaux qui expliquent pourquoi on en est arrivé là, pourquoi c'est comme ça que ça se passe, pourquoi on doit faire ça, etc. Donc il y a une sorte de comment dire, d'histoire qu'on raconte pour expliquer ce qui se passe. Et c'est intéressant que le mythe n'est pas du tout, comme on l'emploie dans le langage actuel, n'est pas du tout une fable ou une illusion. C'est vraiment l'explicitation de l'action de Dieu parmi nous. Alors, quand je dis de Dieu, c'est un terme un peu impropre, hein. De la divinité des dieux, parce que là, on parle de Dieu à nous, mais on ne parle pas du tout de ça. Donc, c'est vraiment l'idée de marier l'explication et la parole avec le rite et l'acte. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, dans nos sacrements, on a quelque chose de ça aussi. Il y a une parole et puis il y a un acte. Et donc ce mariage de l'action et de la parole, bah, c'est quelque chose qui est éminemment religieux et qui se trouve même en dehors de nos sacrements, enfin de notre religion. Alors il y a peu de mythes finalement qui sont universels. Le plus universel, c'est le déluge, qui est vraiment, alors lui, il est vraiment partout, 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 dans toutes les religions, il y a une histoire de déluge. Sur l'origine du monde, finalement, on a peu de mythes qui remontent vraiment à l'origine. On est plutôt sur expliquer un début de cycle de quelque chose, avec souvent la lutte entre le bon et le méchant. Voilà, mais on n'est pas sur quelque chose qui explique vraiment le pourquoi il n'y avait rien et il y a quelque chose, par exemple. Ce n'est pas exactement ça qui se dessine dans les mythes de la création. Les mythes africains font apparaître... Le grand donateur. Donc les mythes africains font apparaître le grand donateur, donc c'est l'idée d'un dieu bon et qui est vraiment en train de donner quelque chose à l'homme. Et puis comme il y a une crise, donc c'est assez parallèle avec le péché, il y a une crise qui se passe, du coup lui il s'éloigne et finalement il livre les hommes au masque, donc ils sont les divinités inférieures souvent cruelles. Donc il y a cette opposition entre un dieu bon, plutôt créateur, plutôt à l'origine, un problème à un instant T, une crise. Et puis après, du coup, il y a des divinités qui sont de type plutôt cruelles et plutôt négatives, qui prennent le pas sur l'homme. Donc là, on est assez, voilà, on peut faire quand même pas mal le parallèle avec le péché. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que dans, même dans les religions qui n'ont rien à voir, il y a aussi des formes de choses qui apparaissent comme ça, qui transparaissent, on va dire. Donc Paul Ricoeur, assez intéressant, il a beaucoup, donc c'est un philosophe qui a écrit énormément, Arnaud ici présent est assez spécialiste de Paul Ricoeur, en tout cas il en a lu beaucoup plus que moi, mais bon, dans cette partie-là, voilà, il dit que la vision du sacré cherche à comprendre la création, à expliquer l'origine, le chaos et l'ordre, donc c'est souvent plutôt qu'une explication de l'origine, une explication du pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup un ordonnancement. Et chacun cherche à renouer avec l'instant mythique de la création, ou alors on se tourne vers la fin. On a aussi toutes les questions autour du rapport à la mort, qui est quand même central, la mort et la vie. Et puis le rôle de l'homme. Donc, quel est son rôle, quelle est sa mission, pourquoi il est là, du coup quelle est sa relation avec le reste de la création, avec la divinité, et puis toutes les notions de bien et mal. Donc on voit qu'il y a quand même ces explications qui sont assez récurrentes. Voilà. Et aussi bien on peut dire que le fait religieux il est vraiment universel et partout et de tous les temps, et pourtant chaque religion est très émiettée finalement dans des pratiques et des cultures qui sont de nature assez différente. Donc on a vraiment une interpénétration entre le cultuel, le rite, et puis le culturel, qui finalement les deux se rendent vis-à-vis. Ça, c'est quelque chose, quand on parlera de la religion catholique, voilà, une forme d'universalité qui est très très différente de l'expérience humaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu assez différent. Alors en fait, il y a plusieurs manières de faire une typologie des religions. Donc celle qui est là, c'est religion naturelle, religion philosophique et religion révélée. Alors là, j'entends naturel, pas au sens du XVIIIe siècle, Rousseau, retour à la nature. J'entends juste celles qui sont proches de la nature, qui sont plutôt en lien avec voilà, une divinité qui est dans la création. Donc là, c'est toutes les religions, et donc beaucoup dans les religions primitives, on va dire, mais qui se retrouvent aussi dans des... quand on parle de spiritualité ou de yoga, se ressourcer avec son corps, des choses comme ça, des tendances actuelles qui sont un peu de cette nature-là. L'idée, c'est de dire que Dieu est partout, puisque la création, voilà, et donc Dieu est diffus, il est immanent, il est présent partout, partout, mais en même temps pas très préhensible, puisqu'il ne s'isole pas. Et il a une forme de transcendance, c'est-à-dire qu'il est quand même... on voit bien qu'il y a quelque chose à un étage un peu supérieur. Et globalement, dans ce cadre-là, la réalité visible laisse transparaître quelque chose de l'invisible, on peut dire ça comme ça, et ça, à la fois ça fascine et à la fois ça terrifie. Donc après, on a peur des événements cosmiques, parce que du coup, on va y interpréter une action de l'invisible, voilà, toutes ces choses-là. Donc il y a un peu un rapport à la réalité qui à la fois est partout, omniprésent, à la fois est très concret dans des choses assez visibles, et puis en même temps, il y a cette dimension avec le niveau du dessus, l'invisible, mais qui du coup, comme on n'a pas de prise, qui est assez plutôt terrifiant. Voilà. Donc dans toutes les religions, dans ces religions un peu qui sont assez diverses hein, sur tous les continents, on a un certain nombre de, voilà, de représentations de la divinité. Donc on voit que souvent le ciel c'est l'épiphanie des dieux, donc c'est dire c'est la place des dieux, ça c'est assez classique aussi. Et les manifestations cosmiques, notamment les orages, les événements de ce type-là, des tremblements de terre et autres, sont des manifestations divines. Le chamanisme, qui est à la fois très ancien, alors curieusement j'ai l'impression qu'il est d'origine sibérienne, donc là j'ai un peu, voilà, je
suis pas sibérienne.
Je suis pas du tout spécialiste, mais apparemment le chamanisme il est né dans tout ce pourtour, et du coup il a été vers l'Amérique, en passant par le haut en fait, et c'est descendu petit à petit, voilà.
Ah, c'est pas les Indes?
Bah non, pas du tout, voilà. Donc bon, après chacun a refait son, parce qu'il y a, je pense, un courant chamanique aussi qui est lié à l'hindouisme, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ça. Bon, enfin bref, du coup, il y a dans beaucoup d'endroits, l'air de rien, c'est ça que ça veut dire. Et là, on est vraiment sur l'idée de médiation entre les êtres humains et les esprits qui sont dans la nature, dans les âmes des animaux, avec tous les thèmes autour des morts, voilà, et comment on peut parler aussi avec ce monde-là. Et puis les âmes des enfants à naître, alors ça c'est intéressant, c'est toujours un thème un peu, voilà. Donc c'est toutes ces choses un peu bizarres, mais qu'on retrouve dans des choses qui sont, dans les pratiques, là où on essaye de faire parler l'État, etc., et d'invoquer les esprits, bah, c'est quelque chose de toujours de cette idée-là et cette intuition-là. Donc on a beaucoup de travers actuels qui sont plus ou moins des résurgences de ce genre de choses.
Comme le New Age, par exemple.
Oui, il y a des formes de ça, voilà. Tout ce qui essaye de rentrer en contact avec le monde invisible, en fait. On est sur ou le monde passé ou le monde futur. Voilà. C'est un peu cette idée. Alors, je vous cite en Louis Bouillet, philosophe, prêtre et théologien, donc tout à fait chrétien, très que le père Giton aime beaucoup, et moi aussi j'aime bien en fait. Voilà, donc lui il dit, voilà, donc il donne plein d'exemples de cette interprétation de religion naturelle. On a le ciel par lequel l'homme saisit le divin comme dominant, embrassant et en même temps dépassant toute chose. Ensuite il y a le soleil qui manifeste le divin comme source de la vie, mais source qui jaillit d'une immuable éternité. Donc c'est une vision de la vie qui est assez particulière. Les eaux, qui sont liées plus particulièrement à la naissance et à la mort, elles sont significatives de la création comme des catastrophes cosmiques où l'univers s'engloutit mais pour renaître. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on va retrouver dans le thème de l'eau dans l'Ancien Testament ou même dans le baptême. Voilà, il y a à la fois l'eau statique qui est l'eau qui symbolise plutôt la mort, et l'eau courante qui, au contraire, est le flux de la vie et qui irrigue la vie. La terre elle-même est une hiérophanie, mais décidément secondaire. Donc en général, c'est l'image de la mer, et en général, elle est effectivement de rang inférieur. Voilà. Le vent peut être aussi le souffle de la vie, et l'homme lui-même est une forme de manifestation du divin aussi. Donc là, on a aussi le thème à l'image de Dieu. Donc toutes ces religions ou ces thématiques essayent de donner du sens, de mettre de l'ordre dans le chaos, de faire des liens entre les choses. Donc c'est leur façon d'ordonner aussi, c'est de connecter les choses entre elles. Voilà. Donc elles figent le divin dans une réalité, c'est-à-dire qu'elles lui donnent des formes qui existent du réel. En fait, on n'est pas du tout dans une forme de religion. Enfin, pour nous, c'est vraiment pas des religions. Parce que nous, dans la religion, on a quelque chose de « je crois en quelque chose », on parle de la foi. Là, on n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est plutôt, il y a une sorte de « c'est », voilà. Il y a du divin, mais il n'y a pas de recherche particulièrement de comprendre ce qu'il est. Il n'y a pas de croyance au sens que nous, on l'entend. Voilà, ça c'est notre façon de voir les choses. Donc, on est vraiment dans quelque chose de juste une sorte de connexion, de pressentiment du divin, et on ne peut pas dire qu'il y ait une relation quelconque avec la divinité, ni de foi, ni d'amour, voilà, puisque c'est quelque chose qui est non préhensible en fait, finalement, qui est un peu diffus. On reprendra ce terme de diffus parce que finalement toutes les religions elles sont un peu le même travers. Alors après on a les religions dites philosophiques. Là l'idée c'est par la raison l'homme doit pouvoir accéder à Dieu. Donc là l'homme est un animal raisonnable. Donc, on doit pouvoir accéder à Dieu, on doit pouvoir comprendre et trouver les vérités par la raison naturelle. Et même là, dans ces thèmes-là, l'expérience, le visuel, le réel, ce qu'on voit, ne nous aide pas du tout et nous empêche même de comprendre le divin. Voilà. Donc il faut même dépasser cette expérience, voire même la nier, tout le réel. Alors, tout ce voyons plus dit philosophie qui est né en Grèce, où la philosophie, et c'est intéressant parce qu'on parle de philosophie qui n'est pas tout à fait de la religion, mais voilà, il est vu comme un sommet. Donc le philosophe, il prétend pas être plus qu'un homme, mais en tout cas, il est plus accompli que les autres. Et c'est tout le thème de la caverne de Platon. Voilà, le philosophe, il a contemplé, il est sorti de la caverne, il sait comment ça fonctionne, et après, il doit enseigner aux autres comment ça marche. Donc seul le philosophe peut être heureux, parce qu'il sait comment ça marche. Bon, c'est une conception du bonheur assez intellectuelle quand même. Et dans le stoïcisme, on a vraiment ce point culminant du philosophe comme un homme accompli. Donc c'est vrai que ça... Voilà, c'est bien heureux, ce qui est un concept un peu particulier. Alors là, pour le coup, autant dans les religions naturelles, je ne m'y retrouvais pas du tout dans le thème de croire, etc. Là, dans le thème de vie bien heureuse, voilà, c'est quand même pas notre concept du bonheur. Et en fait, pourquoi ces philosophies, on parle de religion ? C'est parce qu'en fait, ça prend assez facilement des actions initiatiques avec des rites initiatiques et des rites et des mythes qui sont un peu de type religieux. Voilà. C'est pour ça qu'on peut parler de religion. Et puis ce thème-là, il a été repris. Donc Platon, c'est lui qui incarne tout le mythe de la caverne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la caverne. Donc le monde serait comme si on est, nous l'humanité, on serait comme si on était dans une caverne. Et en fait, on ne voit que les ombres. Donc en fait, on ne voit pas les vraies choses, on ne voit que les ombres parce qu'il y a un soleil à l'extérieur qui est clair et du coup, on ne voit que des ombres qui se meuvent. Et on a l'impression que c'est ça la réalité. Alors qu'en fait, ce qu'on voit sous le voir, c'est dehors et c'est des vraies choses. Voilà. Donc c'est ça le thème de la caverne. Et donc par la pensée, on peut dépasser ce qu'on voit, qui est trompeur, puisque ce n'est que des ombres. Et par la pensée, on doit pouvoir comprendre qu'est-ce qui finalement est la vraie chose dont on ne voit que l'ombre.
Voilà. C'est un peu désincarné alors.
Donc c'est complètement désincarné. Du coup, la seule vraie chose, c'est finalement des idées. Donc c'est tout à fait ça, tu as tout à fait raison. Donc c'est vraiment l'idée des essences, des idées. Voilà. Et donc on est sur quelque chose d'hyper intellectuel, avec l'idée du bien, qui n'était pas toute en dignité. Mais voilà, mais on reste dans le domaine, donc les idées sont bien, et ça nie complètement le corps, le réel. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Et alors là, on peut dire que Platon nous a bien étudié aussi. C'est passé par plein de choses, mais on a un vrai sujet. Et quand on voit, c'est intéressant qu'il y ait un cours sur la théologie du corps, parce qu'il y a un vrai sujet quand même à l'heure actuelle. Le corps n'est pas toujours considéré comme bien, enfin, comme quelque chose de. Voilà, quelque chose qui nous alourdit, quelque chose qui. Voilà. En fait, c'est l'homme, il est. Voilà, tête, âme, corps, esprit et cœur, et ça fait partie de nous, quoi. Et il y a vraiment cette négation que le corps soit quelque chose de beau et qui peut être. Une réussite, quoi, un homme abouti. Donc Plotin a repris un peu ça. Alors lui, il institue quand même sur une notion de l'âme, bon, qui n'est pas du tout notre notion à nous. Donc lui, alors c'est intéressant parce qu'il parle de trois principes, trois réalités distinctes. C'est intéressant de voir ce thème trinitaire qui tout d'un coup apparaît, même si ça n'a rien à voir avec la Trinité, soyons clairs. Donc il y a l'un, le principe d'unité, qui est le bien en fait. Il y a un principe d'intelligence et un principe d'âme du monde, qui est plus notion dynamique, voilà comment ça s'agit. Donc c'est un petit peu moins désincarné, mais pas beaucoup moins, on est d'accord. Et on peut dire que le bouddhisme est complètement dans cette lignée, puisqu'en fait, il est dans la même problématique. Sur Terre, on expérimente la souffrance, il faut se libérer de la souffrance, et donc la dépasser, mais dans le sens de la nier, quelque part, pour atteindre l'absolu. Alors, il n'y a pas vraiment dans le bouddhisme, c'est vraiment aussi une philosophie, il n'y a pas vraiment de Dieu. Donc, il y a des divinités, mais qui sont pas, c'est pas l'aboutissement, en fait. L'aboutissement, c'est d'arriver dans le nirvana où on n'a plus de souffrance. Voilà. Parce qu'on l'a tellement sublimé, on l'a tellement... donc, il y a beaucoup de relents de stoïcisme, là. Enfin, alors que c'est pas du tout la même source. Mais c'est un peu la même idée de se dire, voilà, on peut dépasser la douleur ou la souffrance en n'y faisant pas attention. voire même en s'habituant à la souffrance, voilà, et on la nie d'une certaine façon, et donc on peut du coup être heureux. C'est très nier le corps, c'est nier aussi, ce que je trouve très dangereux dans le bouddhisme, c'est que ça nie beaucoup, c'est très individuel en fait, parce qu'après on est noyé dans le grand tout, là, dans le nirvana. Donc ça nie aussi les relations, parce qu'une part des souffrances qu'on expérimente, c'est parce qu'on est en relation avec les autres. Parce qu'on aime, c'est parce qu'on... Voilà, donc c'est souvent lié à ça. Donc en fait, une des grandes beautés qu'on a de nos relations, en fait, ça le nie, donc c'est très individualiste pour moi, le bouddhisme. Voilà, Leibniz, alors là, on n'est plus sur le thème de... Donc là, c'est le 18e, là, philosophe et mathématicien. Donc là, on est dans l'idée de même d'une... quasiment plus philosophique, mais presque scientifique. Voilà, Dieu existe parce que c'est une nécessité morale et que forcément... le choix du meilleur justifie qu'il y a un Dieu juste qui n'a pu manquer de le faire. Donc c'est le thème de dans ce qu'on voit, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont belles, on a une idée de qu'est-ce qui est meilleur. Et donc du coup, ça dit que forcément, à l'origine, il y a eu quelqu'un, un Dieu bon. Voilà. Mais du coup, c'est un Dieu juste créateur, en fait. Donc il ne m'impacte absolument pas. Leibniz, c'est celui, et cette théorie, c'est celle qui a été bien critiquée dans Candide de Voltaire, où il dit le meilleur des mondes possibles. Voilà, c'est, il critique la théorie de Leibniz. Enfin bon, il n'est pas tellement mieux sur sa théorie à lui. Donc en fait, ces religions, comme les religions naturelles, essayent d'expliquer, d'ordonner le monde, mais en se détachant du sensible. Donc la matière, le corps sont des obstacles. L'histoire est niée. Ça, c'est assez intéressant aussi. Ça veut dire qu'on n'est absolument pas dans une dimension temporelle, en fait. Ça rejoint aussi cette individualité. On n'est pas dans le temps. Le temps n'est pas une notion de début, de fin, d'orientation. Voilà, donc l'histoire n'a pas d'intérêt, en fait. Donc, toutes ces religions essayent de proposer, il y a une idée de salut derrière, ce que n'avaient pas du tout les religions naturelles. Donc, Platon, c'est sortir de la caverne, qui est une forme de sortir de l'enfermement. Platon, il y a l'idée de l'ultime dépassement, et dans Bouddha, il y a se détacher de la souffrance pour atteindre aussi quelque chose au-delà, l'absolu. Voilà, simplement, le divin est très, très, très loin, voire même très très loin à l'origine, très très loin, on ne sait pas où dans l'espace et le temps. Mais du coup, voilà, il n'y a quasiment plus de divin. Et puis après, on a les religions révélées. Bon, je ne vous ai pas fait un grand paragraphe, parce que c'est un peu l'objet de ce qu'on va faire ensuite. Donc on en a trois. Donc révélées, pourquoi? Parce que là, du coup, on a vraiment... alors, elles ont plusieurs points communs. Il y a déjà l'idée d'un dieu unique. Donc au lieu d'un dieu diffus, comme dans les religions naturelles, ou d'un dieu qui est... probablement assez unique dans les visions grecques ou théistes, mais qui est très, très loin,
pas de relation,
et qui, évidemment, n'a pas de sens. Voilà, donc nous, on a vraiment cette idée de Dieu unique, d'un Dieu créateur, et non seulement créateur, mais qui a un projet sur l'homme. Et ça, c'est très très différent du reste. Parce que les autres religions, finalement, c'est... à un moment donné, c'est dans notre paysage, il y a des choses qui doivent exister du divin, mais il n'y a pas d'intention sur moi, donc on est très déconnecté. Alors que nous, on croit à un Dieu qui a un projet sur l'homme. Voilà. Et par la révélation, parce que Dieu fait tout le chemin, quelque part, l'homme, alors encore plus en christianisme, où Jésus, Dieu, il se fait homme pour venir nous trouver là où on est. Mais même déjà dans le judaïsme, Dieu parle aux prophètes, Dieu parle au peuple, Dieu agit dans l'histoire. Voilà. Donc on peut connaître Dieu, au sens fort toujours des idées d'intimité, on peut entrer en relation avec lui, c'est-à-dire l'aimer, avoir foi en lui. Et dans ces religions, on a un équilibre qui est tenu, de façon éminemment bien équilibrée dans le christianisme, qui dans l'islam par exemple est plus tourné quand même côté transcendance qu'immanence, mais on a quelque chose qui est à la fois immanent, c'est-à-dire qui est de notre monde, et à la fois transcendant, qui nous dépasse et qui est le tout autre. Voilà. Et ça tient ces deux choses-là, qui dans les autres, les religions philosophiques, on est sur un Dieu très transcendant, qui du coup part très très loin, et dans les religions naturelles, on est quand même d'abord sur un Dieu immanent, même si on pressent qu'il y a quelque chose au-delà, mais c'est un Dieu qui est là, qui est à notre porte. Voilà. Et puis, c'est l'homme qui est pris dans toute son acception. Donc, cœur, intelligence, corps, âme. Voilà. Et ça, pareil, ça n'existe pas tellement ailleurs.
Alors, les impasses.
Donc, évidemment pas du christianisme, même si, en fait, c'est des travers, des impasses qui pourraient nous guetter et qui ont eu des choses. Mais pour les religions naturelles et les religions philosophiques, le problème, c'est qu'elles sont... Elles courent, enfin, elles vont naturellement à des impasses. C'est ça, le sujet. Et d'ailleurs, du coup, c'est intéressant de voir... c'est le père Bouillet qui a fait une analyse, de voir comment les... Finalement, il y a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des démarrages sur une religion naturelle à un endroit... Voilà, il y a des millions. Puis tout d'un coup, on commence à prendre une approche un peu philosophique, métaphysique, pour essayer de comprendre ce qui se passe, comment ça passe. Et puis du coup, après, on arrive vers quelque chose où Dieu s'éloigne, devient éthéré. Et du coup, on a de nouveau un besoin de se connecter avec ce divin. Et voilà, et c'est des cycles un peu qui n'en finissent pas parce qu'ils ne sont pas équilibrés, en fait. Voilà. Et donc, il y a cette idée de dynamique, voilà, que je ne l'ai pas mis là, mais qui existe aussi. Donc, une des premières impasses, c'est un rite vidé de son sens. Donc il faut qu'il y ait paroles et rites qui sont toujours en tension, et il arrive souvent que l'un prenne le pas sur l'autre. Pour que le rite soit vraiment religieux, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de chercher à se connecter avec le divin, il faut que la parole qui l'accompagne doit être porteuse de signification. Le Bouillet nous dit, dans le rituel en effet, l'action doit être spiritualisée par la parole. Si son sens n'est pas éclairé par une parole divine authentique, le rituel dégénère en magie ou en simple superstition. Mais dans l'autre cas, l'action ne doit pas pour cela être réduite à une simple figuration, claquée sur les choses, de paroles abstraites. Sinon, il n'y a plus du tout de rituel, et on a au plus une espèce de pieuse charade. Donc c'est en somme le sens du symbole rituel qui doit d'abord être recouvré pour que la parole elle-même redevienne la parole du mystère divin, et non pas une simple formule qui, substituée à la réalité, ne saurait plus la rejoindre. Donc, en fait, on a vraiment la première impasse, c'est soit de... quelque part de faire un rite, mais la parole n'est plus connectée à une explication, à une parole qui transcende, et du coup le geste devient juste de la simple superstition. C'est typiquement les amulettes, voilà. On porte une amulette et donc on va y protéger. Voilà, et on a fait une petite parole qui va là, mais elle n'est plus connectée en fait. Donc du coup, elle devient en elle-même la parole et l'acte. Alors que le rituel... il ne dure pas quelque part. Il y a dans la forme du rituel ou du sacrifice, c'est un temps donné, après il y a des effets, puis après on recommence. Donc ce n'est pas quelque chose qui me... voilà, qui fait mon sacrifice, donc c'est bon pour jusqu'à... il n'y a pas ce côté, voilà, je suis protégée jusqu'à la fin, ou je suis en lien avec Dieu jusqu'à la fin. Donc il y a une chose qui, le rite, ça se répète, voilà, parce que ça vit avec ce qu'on dit. Donc là, c'est le premier pas, c'est que, effectivement, soit le rituel... et vidé de la parole, il n'y a plus la parole qui va avec et qui explique et qui donne le sens. Ou inversement, on a la parole, mais le rituel, on n'a plus le geste et l'acte, et du coup, on n'est plus dans la remise au divin. Finalement, on prononce des paroles comme des paroles magiques, incantatoires. Voilà. Donc ça, c'est un peu le travers de la superstition, on va dire. C'est un travers qui peut très bien exister à l'heure actuelle, même quand on essaye d'être chrétien. Voilà, de plus... de, voilà, d'aller pour pratiquer, ça peut être du rite sociologique ou voilà, où on fait à moitié les choses.
Ou par exemple, on peut prendre cet exemple-là, ceux qui sont super fanas de plein de reliques.
Ouais,
j'ai quelqu'un dont vous savez que je ne nommerai pas, mais qui raffole de toutes les reliques. Je trouve ça très bien les reliques, mais voilà. C'est pas le bon Dieu quand même.
Que ce soit ordonné. C'est exactement ça. Ouais. Donc il y a une forme de lien.
On peut toujours être tenté par ça, quoi, pour se protéger.
Et puis ça débouche souvent sur la deuxième impasse, qui est s'approprier le divin pour le mettre à sa mesure. Donc là, c'est vraiment l'action magique. Donc là, c'est on voit que le sacré est présent partout dans l'univers chez les primitifs. Enfin, quand on dit primitif, c'est dans l'ancien temps. Et puis petit à petit, finalement, l'homme a circonscrit dans l'espace et le temps là où était le sacré. Et quand l'homme commence à utiliser le monde comme si c'était le sien, et que par exemple il met le divin dans un temple, mais bien, voilà, la divinité n'a pas le droit de sortir du temple, hein. C'est une forme de prendre la main sur la divinité. Donc c'est une forme de magie qui est de se dire, j'utilise ce que je sais de la divinité, j'utilise ce que c'est du monde de Dieu, pour devenir finalement Dieu à la place, et pouvoir vivre sans Dieu, puisque moi je sais comment ça marche, et donc je le fais tout seul. Ça débouche quand même globalement sur tout ce qui est athéisme. Voilà, on n'a pas besoin de Dieu, on se débrouille pour faire ça. Une autre partie, c'est de scientiser, de faire une science la religion. Voilà, on va tout expliquer, on va tout maîtriser. Donc ça, c'est l'idée où l'homme essaye de maîtriser et donc quelque part de prendre la place de Dieu, ou en tout cas d'écarter Dieu pour avoir lui la maîtrise et d'être pas dépendant. Donc on est toujours sur le même problème que le péché originel de l'orgueil. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, on aura tendance à finalement à pas s'en remettre à Dieu, mais à nous mettre à sa place. Et je pense que c'est intéressant parce que moi, ça me fait penser aussi à la place du sacré, en fait. Donc on a des lieux qui sont sacrés, des temps qui sont sacrés. Donc, dans le temps et dans les lieux, on a une forme de voilà, on est sacré à part. Et en même temps, du coup, le temps profane augmente. Voilà, l'histoire du dimanche, par exemple, ou l'histoire de la prière, ou les églises qui sont... Voilà, il y a une sorte de... Et en même temps, il faut faire un passage de l'un à l'autre. Parce que tout n'est pas sacré, sinon on est dans une religion naturelle. Mais du coup, il y a cet ajustement, je me suis dit, entre le temps et l'espace, entre le sacré et le profane, pour comment mettre du sacré dans le profane sans être dans l'immanence, enfin, en en mettant partout. C'est un peu forme de la prière aussi, qui peut être n'importe où, ou quand on est deux, trois, Jésus peut être au milieu de nous parce qu'on est en prière. Voilà. Donc il y a cette forme de ne pas le sectoriser dans juste l'église ou la messe. Voilà. Et en fait, ça pourrait être aussi une tentation finalement de se dire, j'ai donné mon heure, donc c'est bon, j'ai coché ma case, sacré c'est bon, tout le reste c'est pour moi, c'est profane. Et c'est intéressant de voir c'est un peu un travers aussi actuel, de se dire, voilà, il y a mes dimanches, j'ai fait ce qu'il fallait. En fait, non. Voilà. Donc il y a interprétation et en même temps, le sacré n'est pas partout, dans tout, et voilà, il est aussi éminemment un endroit. Donc je trouve cette relation au temps et à l'espace, je trouvais intéressante, ça fait poser des questions. Alors le troisième impasse, c'est de particulariser le divin. Donc comme on a du mal à savoir comment est Dieu, on projette ce qu'on est sur Dieu. Alors c'est toute les dieux de la mythologie grecque, vivent comme des êtres humains, avec des problèmes de territoire, des problèmes d'adultère, des problèmes de convoitise, des problèmes de voilà, c'est exactement, on transpose le monde sans quasiment aucune d'ailleurs filtre, et puis on le transpose dans le monde des dieux. Voilà. Comme ça, au moins, c'est des dieux à notre mesure, et du coup, c'est plus facile de dire qu'il est Dieu, et puis du coup, c'est vrai que ça ne me gêne pas tellement, parce que finalement, comme je projette ce que je veux, voilà. Et donc, dans ce cas, en fait, on est vraiment dans... Là, on peut dire que le mythe est employé dans le terme fable ou conte, et que c'est à juste titre. Voilà. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans du religieux. On ne cherche pas à savoir qui est Dieu ou à rentrer en relation avec le divin, quel qu'il soit, mais on projette sur le divin ce qu'on a envie de faire. Donc, on se raconte une histoire. C'est anthropomorphisme, ça peut être aussi zoomorphisme, parce que ça, les dieux grecs, ils ont aussi... Il y a les gazelles, il y a tout ce qui va.
Ah, j'ai des animaux chez eux.
Oui, d'abord ils se transforment souvent, en vache, en ci, en ça, et puis t'as quelques dieux qui sont les dieux égyptiens aussi, ils sont tous ça, il y a le crocodile, il y a celui qui est chat, il y a celui qui est l'oiseau, l'ibis, tout ça. Donc c'est souvent zoomorphisme, et puis en mœurs c'est plutôt anthropomorphisme, et en forme c'est parfois zoomorphisme. Voilà. Après celle-là elle est moins intéressante parce que je pense qu'elle est moins à l'heure actuelle. Enfin, je n'ai pas trouvé très mandataire d'analogie. Ensuite, il y a une impasse qui est Dieu éthéré, donc c'est celle de... En fait, on tente de rationaliser tellement le rite, on réfléchit sur ce qu'on fait, on conceptualise, que finalement, on éloigne Dieu de la réalité, et on finit par le faire disparaître, d'ailleurs. Donc, c'est exactement le déisme de l'époque de Voltaire, là. L'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge existe, et n'est point d'horloger. Donc, Dieu est un horloger. Bon, ce qui n'est pas... Voilà, peut-être qu'il vient d'horloger, c'est possible. Pas changer la face du monde. Une fois que je l'ai mis dans cette petite case-là, je suis tranquille sur tout le reste. Voilà. Donc c'est vraiment un dieu qui n'a aucun intérêt, finalement. Voilà. Au mieux, on peut dire qu'il est, mais c'est à peu près la seule chose qui... Donc on n'en dit rien, et donc ça ne m'intéresse pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on part sur un dieu comme ça, qui s'éloigne, ce qui reste, c'est finalement la morale ou la sagesse humaine. C'est aussi une forme de l'anthropomorphisme. Mais du coup, ça fait qu'on dogmatise, on absolutise la morale qu'on pense. Et ça, ça peut être aussi, finalement, quand on ne reconnecte pas la morale ou la sagesse humaine à celle de Dieu, et ben finalement, on va absolutiser des particularités, puisque la morale, elle est quand même... tant qu'elle n'est pas connectée à Dieu, ça peut être aussi juste ma morale à moi. Alors, il y a des points communs sur tu ne tueras point, on peut dire que c'est quasi universel, très bien. Il y a plein de points de morale, c'est quand même très lié à ce qu'on fait, ce qui se pratique dans certains pays ou à certains endroits, dans certaines communautés. Donc c'est vrai que souvent ce qui est intéressant quand on éloigne Dieu, c'est que finalement il nous reste que la façon de fonctionner, je dirais, quand on logé c'est toi éloigné, et la façon de fonctionner c'est la morale et la sagesse. Et on voit que la morale et la sagesse humaine, elles sont rien si elles ne sont pas connectées à Dieu, quoi. Intéressant sur le texte sur les oracles là, parce que voilà, donc dans les oracles en fait on... Pardon ?
C'est les djihadistes.
Alors les djihadistes, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, on veut prendre la place du divin, parce que quelque part on s'érige en jugement. Donc finalement c'est nous qui savons qui est bien et qui n'est pas bien. Donc il y a beaucoup, on prend la place de Dieu, et puis effectivement du coup, et du coup c'est une morale, une particularité. Mais au début je pense qu'il y a quand même l'idée de jouer aussi le Dieu qui juge. Mais effectivement il y a aussi cet aspect de la morale, des particularités. C'est même morale et puis c'est de la pratique aussi, enfin des pratiques. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que ça, c'est effectivement la tendance. Enfin, on voit que tous les extrémismes en religion, en fait, ils partent ou du côté, effectivement, je me mets à la place de Dieu et donc c'est moi qui sais ce qui est vrai, au lieu de se dire que la vérité, elle est à chercher et elle est d'abord en Dieu, elle n'est pas d'abord de notre côté. Donc il y a cet extrémisme-là. Et l'autre extrémisme, c'est dire finalement tout se vaut. Donc on est plus dans tendance plutôt religion naturelle et magique, où finalement. Il faut juste qu'on se calme. Et si on se connecte à la nature, on devrait tous... C'est un peu l'idée de Rousseau, le bon sauvage, quoi. En fait, c'est la civilisation qui nous a pervertis. Si on se connectait à la nature, on serait bon. Et ça, c'est une illusion. Voilà. Parce qu'il y a péché. Donc je pense que les extrémistes, ils portent sur les deux côtés. Et l'extrémisme de « si on se connecte », ça veut dire « tout est permis, finalement, puisque si t'es connecté, si t'es d'accord avec toi-même, y a pas de problème. » Donc c'est le...
Chez les djihadistes, il y a quand même, donc là c'est un autre volet, mais il y a quand même une forme de suicide.
Alors je pense qu'il y a aussi la négation du corps. Et on n'aime pas la créature. En fait, c'est intéressant, parce que derrière la chose du corps, c'est pas juste une notion de oui, mais quand même, on voit bien que le corps, c'est ce qui nous empêche. En fait, c'est ce qui nous fait aussi entrer en relation avec les autres. Donc, si on n'avait pas de corps, on ne serait pas en relation. Mais donc le corps, c'est pas seulement... En fait, c'est vraiment ce qui nous porte notre humanité dans... finalement, si je suis en contact avec vous, si je peux parler, c'est mon corps. Donc, si je n'ai pas le corps, et si je ne fais pas droit au corps et à ce qui, en quoi il est bien, et si je ne le soigne pas, enfin, si je n'en fais pas quelque chose auquel je fais attention, que je n'utilise pas comme un objet, en fait, on nie l'homme. Et ça, c'est assez intéressant de se dire qu'effectivement, quand on commence à toucher finalement au corps, et finalement, on touche à ce qu'est l'homme, voilà, à la dignité de l'homme. Et tous les... Ah, mais ça peut être... tout ce qui est considéré corps-objet, les viols, les meurtres, les choses comme ça, même les scarifications, les suicides, les choses, enfin c'est tout ce qui nie le corps, finalement il nie l'homme en fait. C'est intéressant de te dire que c'est souvent par le corps que ça se passe plus que par l'intellect ou les choses comme ça. Donc oui, je crois beaucoup à réhabiliter le corps.
C'est vrai.
Et on voit que c'est compliqué avec les ados. Hein.
Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui parlait. Okay. Et je crois qu'il avait créé un scandale. J'avais entendu vaguement parler de ça. Hein. Vous me dites si je me trompe, mais saint Thomas d'Aquin, il avait tellement étudié le corps et l'âme. Il disait qu'en fait, l'âme, c'était. Il l'a surnommé la corporéité. Hein, et il disait qu'en fait, quand nous mourons, c'est pas la personne qui arrive au ciel, c'est son âme seulement. Et c'est la résurrection des corps que la personne sera vraiment au ciel. Mmh. C'est étonnant, hein. Il allait loin, il savait semer
Alors,
à l'époque, ils étaient encore un peu déconnectés, Abraham, donc ils avaient du mal à comprendre. Pour eux, la personne montait au ciel, c'est bon, c'était son âme qui comptait. Ils disaient non.
Bah, la résurrection, la résurrection de la chair, c'est un. Alors, pour le coup, s'il y a bien une particularité alors, très très forte, la résurrection de la chair, c'est complètement atypique. C'est-à-dire que là, forme de vie éternelle, des formes de. Il y en a plein. La résurrection de la chair, bon, même en judaïsme, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est vraiment une particularité, là c'est vraiment donné par le Christ. Hein. Ça c'est très intéressant, parce que c'est vraiment là c'est très unique. Ça c'est pas un truc qu'on aurait imaginé. Alors en conclusion, je vais vous dire, puis après on pourra toujours parler encore, parce qu'on a du temps. Donc en fait on voit que ces deux types de religions, la naturelle et philosophique, en fait elles mènent complètement à des impasses. C'est un peu, moi j'utilisais l'image du boomerang, c'est un peu comme on y projette tellement dans notre élan vers Dieu, qui lui est un élan vraiment mis au cœur de l'homme, et donc ça c'est intrinsèque à l'homme, et on voit bien que ça dénote ça en tout cas. Et en fait c'est comme si on y mettait tellement nous à l'alourdissement que pouf, le boomerang il revient avec nous, et en fait on n'y revient pas avec Dieu quoi. Enfin, on revient avec ce qu'on est déjà, ce qu'on y a mis en fait. Et je pense que c'est vraiment cette image que si tout seul, en essayant de s'élever, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, mais finalement on y met tellement nous-mêmes et c'est tellement alourdi par notre perception et surtout notre péché, qu'on ne va jamais atteindre Dieu. Et donc au mieux, par la raison, on va atteindre quelque chose du type le grand horloger ou le dieu des philosophes, qui quand même n'est pas du tout... C'est pas ça qui va me faire lever le matin et c'est pas du tout ça qui va me faire faire un cours un lundi soir. Ni adorer, ça fait pas bouger quoi. Voilà, donc en fait, pourquoi les religions révélées, c'est les seules qui peuvent vraiment nous éclairer, c'est que dans ce cas-là, c'est Dieu qui vient à nous. Et dans le christianisme, encore plus éminemment, puisque il fait tout le chemin, puisqu'il vient même nous retrouver dans l'humanité et nous faire frères. Du coup, je pense que même si on a les impasses, parce qu'on a vu que ça pouvait aussi nous guetter sur tel ou tel point, je pense que vraiment, si on garde les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu, et qui justement est ce juste équilibre entre transcendance et immanence, on ne tombera pas. Voilà.